France, Margaret Bélanger a été promue au poste de vice-présidente exécutive affaires commerciales corporatives le 21 décembre 2016. Après s'être initialement jointe à l'Organisation des Canadiens en août 2013. C'est peut-être un début de septième saison, à peu près, là. Elle fut nommée vice-présidente affaires juridiques, chef des affaires juridiques moins d'un an après. Elle est en charge d'un paquet de choses. Stratégie au niveau de la restauration, billetterie, satisfaction à la clientèle. Mais ce qui m'impressionne le plus, là, vraiment, là, c'est vrai aussi, je vous mentionne, elle a aussi représenté les intérêts de la famille Saputo à l'occasion de l'arrivée de l'Impact à Montréal en Major League Soccer. Mais ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que France, elle, accompagne ou représente Jeff Molson à la table des gouverneurs de la Ligue nationale lors des réunions ou autres événements comme ça. France, allô?
Bonjour, bonsoir plutôt.
Ça va bien?
Mais ça va très bien. Et vous, Ron?
Ben oui, très bien.
Excellent.
Très bien, surtout avec vous comme invité.
Ben, c'est moi, ça me
fait
plaisir.
C'est un privilège, vraiment.
Partagé.
Je suis honoré. Vous accompagnez Jeff Molson dans des occasions comme ça. Là, parce que, absolument, ce sont les propriétaires qui sont là. Vous accompagnez Jeff Molson et tout ça. Puis, si jamais Jeff s'absente, ça se peut que vous y soyez comme ça, seul, vous représentez. Vous êtes une dame dans un monde d'hommes, je dirais pas macho, mais en tout cas d'hommes.
Oui, on va se contenter de dire une femme dans un monde d'hommes.
Ouais.
C'est vrai.
Une grande dame.
Bien, c'est une occasion qui m'est donnée, en effet, d'être à toutes les rencontres de la Ligue nationale, donc les rencontres des gouverneurs qui ont lieu 4 fois par année. Alors, chaque équipe a un gouverneur, hein, et c'est le propriétaire. En ce qui concerne les Canadiens, c'est Jeff Molson. C'est tous les propriétaires d'équipe. Et les propriétaires ont le droit de nommer ce qu'on appelle en français un « alternate governor ». Et c'est le rôle que j'occupe pour le Canadien. Donc, je suis de toutes ces rencontres-là. Et en effet, si Jeff Molson ne peut pas être là, c'est moi qui vais y être. Mais en général, Jeff ne manque pas ces rencontres-là parce que c'est les rencontres avec toutes les autres propriétaires et les autres instances de la Ligue.
Vous êtes la seule dame du groupe?
Comme alternate governor, oui.
Bon, ça vous fait un petit velours.
Bien, c'est une belle marque de confiance.
Papa est content?
Oui, absolument. De Matane, de très loin, je crois qu'il est très content, oui.
C'est formidable. De Matane, vous étiez en admiration avec le hockey, vous étiez captivé par le hockey à un moment donné, ou vous n'aviez pas le temps parce que vous étudiez, puis étudiez encore?
Non, on étudiait, mais on était quand même très captivé par le hockey. On regardait les matchs du Canadien. Nous, notre téléviseur était dans la cuisine, l'endroit parfait pour regarder un match de hockey, alors on regardait ça en famille. Les Canadiens de Montréal. Puis mon père a toujours pris pour le Canadien. Et donc, nous, on a pas mal toujours pris pour le Canadien aussi.
Et les gens vous écoutent en direct de Matane actuellement, vous savez ça, hein?
Ah ben, bonsoir à tous. Ben oui, on en profite.
Parce que vous savez qu'on rejoint tout le monde au Québec. Et à Matane, c'est bien le fun. Plaisir 105.3.
Plaisir.
Oui, Plaisir 105.3. Les gens sont à l'écoute. Vous pourrez appeler un peu plus tard. Et si vous étiez copain ou copine de France, il y a de ça quelques années, sentez-vous bien à l'aise de m'appeler. Et si vous êtes cousin ou cousine, appelez-nous et parlez-nous de France et son cheminement. Vous savez, je vous ai présenté en disant que vous en êtes à votre 7e année.
Oui, exactement.
Bon. Oui. OK. Et puis vous êtes en charge de quoi exactement, à peu près tout, pour l'amour du bon Dieu, mais vous êtes responsable d'un paquet de choses. La restauration, billetterie, satisfaction clientèle, et plus encore l'aspect juridique. Ben des affaires. Vous êtes avocate.
Oui, avocate de formation et avocate dans un grand cabinet pour 17 ans avant de joindre l'Organisation du Canadien.
Et comment a été votre expérience avec la famille Saputo?
Très bien.
Bon, c'est bien ça.
Bien sûr.
OK, oui, sûrement, oui. Vous n'avez pas passé 7 ans-là.
Avec les Saputo?
Oui.
Non.
OK.
Non, c'était chez Steichmann, dans des dossiers pour eux.
OK, d'accord. J'ai un paquet de questions à vous poser. Je suis certain que les gens vont m'écrire tout au long de la soirée via notre Facebook et aussi Twitter. Et sentez-vous bien à l'aise, chers amis. On va faire deux blocs de au moins une dizaine de minutes, 10-12 minutes, en compagnie de France Margaret Bélanger. Première chose, pourquoi les matchs à 19h et pas 19h30? Il y en a qui apprécient, d'autres moins. Vous savez que dans mon temps, les matchs étaient à 20h.
J'ai entendu parler du fait que les
dans
matchs
l'ancien
étaient,
temps,
dans l'ancien temps, dans le bon vieux temps, les matchs à 20h. Je pense que c'est une tendance lourde dans la Ligue. Lorsqu'on regarde ce qui se fait tant dans l'association de l'Est que de l'association de l'Ouest, il y a la grande majorité des équipes maintenant débutent leurs matchs à 7h la semaine. Nous, on avait déjà les matchs à 7h le week-end. Le samedi, les matchs ont toujours été à 7h. Et donc, on ne fait que suivre une grande tendance lourde dans la Ligue. Mais avant de faire ce changement-là, on a fait un sondage.
Il y a eu des demandes, il y a des gens qui ont réagi.
On a fait un sondage auprès de nos détenteurs de billets de saison durant la saison dernière. Puis, je vous dirais qu'en très grande majorité, les gens nous ont répondu. On a revalidé le samedi soir à 7h et les gens nous ont dit « oui, gardez ça à 7h ». Puis, on a demandé « êtes-vous prêt à un changement? Ramenez les matchs à 7h la semaine au lieu de 7h30 ». Puis, les gens nous ont dit « oui ». Je pense que ça fait l'affaire de bien des gens. Finissent le bureau, vont au match plus tôt, rentrent à la maison plus tôt. Alors,
les parents, les
ben
enfants.
Oui, ben bien sûr.
Les enfants veulent voir la troisième période.
Oui,
c'est pas tout
absolument.
Parce que tu as 9-10 ans.
Non, on le permet pas. Ça finit trop tard. Mais puis aussi, pour notre équipe de hockey, le match finit plus tôt. Ils sont partis parce que, évidemment, souvent, ils vont partir après les matchs. Ils prennent tout de suite un avion pour se diriger vers une autre ville. Alors, ça fait en sorte qu'ils arrivent à destination plus tôt.
Bon. Billets disponibles pour certains matchs du Canadien. J'ai appris cela il y a de ça quelques jours. Des billets disponibles pour tous les matchs ou certains matchs ou la plupart des matchs?
Bon, on a 41 matchs de saison régulière. Le premier est demain. On a un nombre de billets qui sont couverts, c'est-à-dire qui sont déjà vendus avec nos détenteurs de billets de saison qui achètent la saison en entier. Ouais. Mais pour chaque match, on a des milliers de billets à vendre. Et donc, on fait notre vente de billets qui débute au mois de septembre, ce qu'on appelle notre fameux « on sale », notre mise en vente du départ de notre saison. Ouais. Et il y a un tas de billets qui se vendent là, bien sûr. Mais à chaque match, on a encore des billets à vendre, c'est sûr. On finit par vendre la grande majorité, sinon tous nos billets pour chacun des matchs. Mm-hmm. Mais il reste qu'en amont du match et... Comme je le disais récemment, même la journée d'un match, il nous reste des billets à vendre parce que la Ligue nationale, par règlement, nous exige de garder un certain nombre de billets de côté jusqu'à 2h la journée du match pour l'équipe adverse, pour les officiels de la Ligue, pour un tas de monde de la Ligue nationale. Et on doit garder ces billets-là. Et une fois que les gens de l'autre équipe et la Ligue nous disent combien de billets ils prennent, on libère, nous, le reste. Ah. Alors, il reste des bons billets jusqu'à la journée du match. Alors, j'encourage les gens à venir sur canadien.com, voir ce qu'on a. On a des très bons billets, souvent, Armand.
Parce que les Canadiens sont trop rapides sur le gun, comme on dit, sur les sites de revente. Là, ils sont très, très... On se dit, Colin, on veut pas rater le match. Puis on pense qu'il n'y a pas de billets disponibles dans les sites de revente, puis ils nous chargent des prix, etc.
Tout à fait.
Un petit peu. Puis, alors là, c'est bon à savoir. Il y a un certain nombre de billets à rabais ou des prix moins chers pour ceux de coupe de 1000. Ça, y en a-tu des billets comme ça? Pas juste dans la section Monson ou je sais
oui,
pas.
Oui, c'est ça.
Ça
alors, ben, c'est ça.
Comment ça fonctionne?
On a une tarification variée, évidemment. Ouais. Mais ce dont on est très fiers, c'est deux choses. Premièrement, pour les étudiants, les gens à l'université, les gens au cégep, on a des billets pour eux à 42 $. Alors, 42 $, ça inclut un billet et une consommation, un produit Molson, on va le dire. Oui. Alors, les gens peuvent venir voir un match au Centre Bell avec une consommation. Puis ça, c'est 42 $ si t'es au cégep ou à l'université, évidemment.
Vous les encouragez à boire?
Ben, en haut de 18 ans, j'allais le dire. J'allais le dire, j'ai pas eu le temps.
Vous avez une bière.
Une seule, un produit. Un match, ça dure 2h30. Alors, on a ça, puis... Quand je dis qu'on a des billets à vendre, on a des milliers de billets. Non, mais c'est dans le sens où, pour les universitaires, je tiens à le préciser, les gens vont dire, ben oui, ils mettent une cinquantaine de billets de côté, puis ils disent, on a des milliers de billets à vendre qu'on garde à 42 $ pour les étudiants. Parce que pour nous, c'est important d'avoir des jeunes dans le building.
Votre prochaine
clientèle. Tout à fait, exactement. Ça crée de l'ambiance. Les gens sont là, connaissent la musique. Ces gens-là participent à nos concours, embarquent dans le match. C'est le fun. On a aussi... Ron, des billets pour les familles. Un enfant, 23 $ par billet, accompagné d'un parent qui, lui, va payer 52 $ le billet. Évidemment, c'est sûr que c'est 23 $, c'est 52 $. Ça s'accumule tout ça, mais en même temps, on a des billets qu'on réserve pour les familles. On veut que les gens viennent chez nous. On crée de l'ambiance pour nos familles, pour les enfants dans l'aréna. Alors, on est très fiers d'avoir ces billets-là, qui, j'espère, sont abordables pour ces gens-là.
Bien, ça l'est abordable, c'est sûr. Mais les prix des billets, maintenant, on va en parler. Ronald est fâché. Ronald est choqué. Ronald est désemparé. Ronald est en tabaslac. Et j'ai dit, je vais garder ça pour France. Ça n'a pas de sens. Vous vous êtes fait jouer royalement, vous autres, l'Organisation du Canadien, par les Maple Leafs de Toronto. C'est bien le fun de faire un deal, handshake deal, avec Toronto. on va aller jouer chez vous. Vous venez jouer chez nous. Deux belles équipes, des rivaux. Mais ça avait l'air qu'eux autres ont ridiculisé la chose. Eux autres, ils nous ont envoyé une équipe de la Ligue américaine sans même pas nous donner un Marner, un Matthews, un Tavares, un gardien de but numéro un. Mon ami se déplace. Ça lui coûte 800 $ pour 4 billets avec ses enfants. C'est son seul match, évidemment, de l'année. Mm-hmm. Puis il va voir ça. Puis au moins, il y avait une certaine représentation de l'équipe canadienne. Mais l'autre bord, rien. Rien qui vaille. Moi, on va vous dire une chose, France, puis je veux votre opinion là-dessus. Je vais vous dire une chose. Avant de négocier un match avec quelconque équipe, il y a de l'attrait pour Boston, il y a de l'attrait pour Toronto, Pittsburgh, nommez-les. Moi, là, je veux l'assurance. L'assurance qu'il va y avoir au moins un ou deux joueurs étoiles. Sinon, on passe à d'autres choses. Qui veut venir jouer chez nous? Moi, vous n'avez pas fait ça. Vous croyez que que les Maple Leafs seraient raisonnables dans le... Vous avez été choqué, vous aussi. Dites-moi que vous avez été surpris d'abord, puis ça n'a pas fait votre affaire. C'est sûr.
Mais en fait, la Ligue, pour les matchs pré-saison, la Ligue a des règlements. Vous le savez, la Ligue...
Je les connais par cœur.
C'est ça, la Ligue exige un certain nombre de membres de l'équipe régulière qui soient habillés. Je crois que c'est 10. Et les Leafs ont rencontré ce critère-là. Parce que s'ils n'avaient pas rencontré le critère, l'équipe ne pouvait pas être sur la glace. Alors, ils ont rencontré le critère. Est-ce qu'ils nous ont envoyé un tas de joueurs qu'on ne connaissait pas au-delà des joueurs qui devaient faire partie de l'équipe par réglementation de la Ligue? Oui. Est-ce que c'est décevant? On peut dire que c'est décevant. On aime offrir à nos partisans une belle expérience au Centre Bell. On aime avoir des matchs relevés. C'est vrai que c'était pré-saison, mais quand même. Alors oui, c'était décevant.
Vous savez, le critère, là, les critères.
Oui, les règles.
Vous les connaissez, les critères. Moi, je les connais par cœur. Ouais. Mais quand vous dites que si tu as joué 100 matchs dans la Ligue nationale, tu es un goaler, 50 matchs pour un gardien de but, puis quand tu as joué 100 matchs au total dans ta vie, mais tu es un joueur de quatrième trio qui arrive d'ailleurs, hey, les critères, ça, c'est la responsabilité de la Ligue. Puis moi, si j'étais vous, je dirais à la Ligue, tu sais, tes critères, là, on peut-tu revoir ça? J'ai l'impression que vous allez en parler maintenant. Les billets premium, parce que je reçois un paquet de questionnements à ce sujet. Billets premium. Vous autres, vous déterminez que, mettons, Toronto, c'est une équipe premium. Boston, premium. Pittsburgh, premium. Ah, Piqué joue à... Premium. Premium. Vous chargez plus cher. Caroline, Columbus, Floride, un prix. Moindre. Bon. Juste une question comme ça, je ne sais pas si vous le savez. Est-ce qu'Ottawa, c'est un premium?
Ben, en fait,
je pense que oui.
En fait, premium, là, comme terme...
C'est quoi?
Le mot premium n'existe plus.
OK.
Il faut juste...
C'est juste plus cher. Oui, ça fait plus cher.
Exactement. Mais premium comme tel, juste pour rectifier, ça n'existe plus.
OK.
On a, c'est vrai, des tarifications différentes en fonction du jour de la semaine et de l'équipe qui nous visite, c'est sûr. Puis ça va, c'est tout simple, c'est 101, c'est l'offre et la demande.
Ouais.
Toronto est en ville, il y a un tas de monde qui veut venir voir Toronto parce que c'est une rivalité incroyable qu'on a avec eux depuis des années, parce que, bon, ils veulent venir voir cette équipe-là. Alors, il y a une très forte demande, on a des gens de Toronto qui sont ici, qui viennent acheter nos billets. Alors, est-ce que le prix est plus élevé qu'un lundi soir contre une équipe dont on entend moins parler? La réponse, c'est oui. Mmh. C'est l'offre et la demande. C'est partout pareil.
C'est l'offre et la demande. Même si Ottawa est 31e, puis Ottawa sont prêts, ça veut dire que des partisans des Sénateurs vont vouloir acheter des billets à Montréal, des Sénateurs pour venir voir un match à Montréal. Fait que c'est normal que chargeons un peu plus cher. On va remplir la cabane quand même. Je comprends, vous faites des réunions, vous faites du brainstorm, puis vous analysez tout ça. Mais entre-temps, là, le partisan, lui, qui veut se payer un billet, mais là, il faut... Comment il y en a de premium à peu près, vous pensez? Pas premium,
c'est ça, c'est ça. Alors, il y a diverses catégories de prix. Je dirais que les prix des matchs vont vraiment varier en fonction, je le dis, l'adversaire puis le jour de la semaine. Puis là, ensuite, il y a un tas de catégories à ça. Là.
Ouais.
Ce que je dirais, cependant, c'est que nos détenteurs de billets de saison, eux, vont payer en moyenne 20% moins cher que le match le moins cher. Alors, disons, un lundi soir contre une équipe de dernier rang, puis je ne veux pas trop nommer ces équipes-là parce ça va vite dans la ligue, là, puis les derniers sont les premiers et vice-versa.
Ouais.
Mais un lundi soir contre une équipe peut-être qui attire moins de gens, nos détenteurs de billets de saison, eux, vont acheter tout l'ensemble de la saison, les 41 matchs de saison régulière, à un prix qui est escompté environ de 20%. Alors, eux, premium ou pas, ou matchs qui sont plus chers, moins chers, ils ne subissent aucunement ces variations de prix-là. Ils achètent la saison et ils ont un rabais d'environ 20%. Par la suite, Ron, c'est au niveau de l'offre et la demande. Un match qui s'en vient, on voit qu'est-ce qui arrive. Et puis...
France-Margaret Bélanger est notre invitée, mais vous parliez de subissent. Oui, ils subissent les détenteurs de billets de saison, ils subissent les matchs préparatoires. Est-ce qu'il n'y en a pas trop? L'entraîneur-chef lui-même, Claude Julien, a dit peut-être bien qu'on en jouerait peut-être moins, tu sais, peut-être 4, peut-être 5, au moins coupé d'une coupe de match. Vous autres, je comprends que le but de l'exercice, c'est de remporter la Coupe Stanley, faire les séries et faire un peu d'argent. Hein, tu sais, vas-y, c'est une business, c'est une affaire. Je comprends que vous voulez faire un peu d'argent, je l'apprécie, puis c'est normal. Mais tabarouette de Caroline Debine, les matchs préparatoires au même prix que les matchs en saison, en régulière?
Matchs préparatoires, il y en a 4 au Centre Bell, on en a 2 sur la route, donc on est à 6. En fait, cette année, on a aussi fait Hockeyville, donc c'était un 7e match à Bathurst, mais ça, c'était un match avec la Ligue nationale. Le maximum préparatoire, c'est 8 dans la Ligue nationale. Plusieurs équipes en jouent 7. Et il y a longtemps, on était à 7. On a réduit à... C'est-à-dire, on était à 5... Je devrais plutôt dire qu'on était à 5 matchs au Centre Bell pendant longtemps. Et je crois que depuis 4 ans, au moins, on a réduit ça à 4 matchs.
Mais les prix?
Bien, les prix, c'est un match comme un autre. Alors, on vend ça le même prix.
Mais vous savez que c'est pas un match comme un autre.
Mais c'est un match au Centre Bell. Les gens... Ouais,
C'est juste ça. Ça nous dérange un petit peu, ça dérange les gens. Mais on va dire, comme on dit, tu ne peux pas pêcher un cœur d'aimer. Puis si tu ne veux pas y aller, payer ce prix-là, parce que c'est un match préparatoire, puis tu ne sais pas à quoi t'attendre, puis tu ne sais pas quelle sorte d'alignement qu'il y a, bien, attends un match régulier, parce que vous venez de me dire qu'on peut avoir des billets en match
régulier. Absolument,
tout à fait. Mais on aime ça remplir le Centre Bell quand même, match préparatoire.
Oui, absolument. Puis d'ailleurs, on a eu des très bonnes assistances à nos matchs préparatoires. On a une jeune équipe, on a des joueurs très excitants à voir jouer.
Ben, le cadeau blanc-rouge, là, c'est un beau cadeau, ça.
Ben, tout à fait.
Pas chargé.
Le
c'était plein craqué.
5 $ par billet. Et puis les gens avaient un trio gratuit.
La visite des vestiaires.
Oui, tout à fait.
Toutes des belles choses, ça.
Oui, on a fait ça.
C'est
cette
positif,
année.
Ça.
C'est positif.
Visite des vestiaires. Puis il y a quoi? La salle Jacques Beauchamp et la passerelle
oui,
aussi?
On a fait. Alors, le match rouge contre blanc, ça, on fait ça depuis quelques années déjà au Centre Bell. Prix, en fait, 5 $ puis les profits vont d'ailleurs à la Fondation du Canadien. On ne fait pas ça pour faire des sous, on fait ça pour ouvrir notre Centre Bell à des partisans qui, par ailleurs, peut-être ne peuvent pas venir autrement. Alors, on fait ça. Ce qu'on a ajouté cette année, c'est la visite du Centre Bell qui se passait très tôt le matin. À partir de 8 heures, nos portes étaient ouvertes.
Il y avait 2000 personnes qui attendaient.
Oui, on a eu un tas de monde. Et puis, on avait fait un parcours. Les gens pouvaient aller galerie de presse, la salle de conférence du coach, voir dans le vestiaire et puis se promener aussi au travers des tout ce qu'il y avait
génial,
à voir.
Ça.
Oui, on a fait ça, puis on veut refaire ça l'an prochain. Franchement, confidence, on a été surpris de voir le nombre de personnes qui étaient là le matin, faisant la file, voulant voir le Centre Bell. Alors, on va recommencer ça. On était heureux de notre expérience, puis je pense qu'on a rendu des gens heureux avec ça.
France-Margaret Bélanger est avec nous, avec grand plaisir. Elle est VP avec le Canadien, des fonctions, c'est incroyable. Elle gère à peu près tout. Lorsqu'il y a un meeting sur quoi que ce soit, vous êtes là.
Ben oui,
à peu près tout, là.
Mais on a une grosse équipe. Moi, j'ai un tas de collègues aux communications. Wilson, ouais. Trottier. Tantôt, on parlait de restauration. En réalité, c'est Daniel Trottier qui est chez nous. Daniel, qui est un homme super, qui, lui, gère, en fait, tout l'aspect restauration, l'aspect building, l'aspect arena, là, ce qu'on appelle les briques et le mortier.
Ouais.
C'est Daniel Trottier.
C'est-tu trop cher, manger? C'est-tu trop cher pour une famille, lorsqu'on est au Centre Bell, que ce soit pour un spectacle de Céline ou que ce soit pour un match de hockey, de payer, je ne sais pas combien pour une bière ou une bouteille d'eau, je ne sais plus.
Ben,
une bouteille d'eau, c'est des combien? 3, 4 piastres, 5 piastres, je ne sais pas, c'est extravagant.
Lorsqu'on regarde nos prix, là, on se compare. Moi, j'ai la chance d'aller voir ce qui se passe dans d'autres arénas au travers de la Ligue nationale.
D'accord.
Mon collègue Dan, dont je faisais mention tantôt, fait la même chose. On se promène, on regarde ce qui se fait ailleurs. Ouais. Puis, je dirais, on se compare très avantageusement à ce qui se fait ailleurs. Une bière là, à 17-18 US, là, on voit ça à Las Vegas, pour ne pas nommer cette équipe-là, des cocktails à 20 américains. On va dire, on paye 1 américain parce qu'on est aux États-Unis, mais il reste que 20 américains, c'est quand même, ça commence à s'approcher du 30 canadien, peut-être un peu moins que ça. Alors, je pense qu'on fait attention, on est conscient, puis on prend nos augmentations de prix en conséquence, mais on prend pas ça à la légère. On fait attention à nos augmentations de prix, puis on regarde qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis je répète qu'on se compare avantageusement
De toute façon, si on compare, je dis ça comme ça, là, si on compare au cinéma, t'achètes ton popcorn,
c'est sûr,
t'achètes ton Coke, Pepsi, Diet, c'est plus cher que
c'est
ça.
C'est très cher.
Cérémonie d'ouverture. Il y a eu des flops par le passé. Je me souviens plus quelle année. Je ne pense pas que vous y étiez, France. Mais il y a eu des flops. Ou des moments où, pour nous autres, les journalistes, pour les amateurs, on se présente là. Et le fameux flambeau qu'on se passe, là, à un moment donné, on ne sait plus à qui le donner, là, puis tout ça. Et aussi comment dire, le feu sur la glace. Oh, OK. Dites-moi qu'on n'aura pas ça jeudi. Surprenez-moi.
Oui, surprenez-moi. Bien là, premièrement, si on veut vous surprendre, là, je ne peux pas dire qu'est-ce qui va se passer, parce que sinon, il n'y aura plus de surprise.
Il y a ça.
Bon. Mais je peux vous dire qu'on vous réserve une belle cérémonie d'ouverture. Évidemment, c'est la présentation des joueurs. On est une équipe de hockey, on présente nos joueurs. C'est un peu toujours la même chose.
Il y a plusieurs nouveaux joueurs.
Oui, tout à fait. On va présenter aussi notre personnel d'entraîneur et tout le personnel autour de l'équipe. Et on va avoir un beau moment unique à Montréal, je dirais. Ouais. Il s'agit d'être là et de regarder... Oui, vraiment. Un beau moment unique à Montréal.
Ça n'a pas rapport à un ex-joueur?
Non. Ça n'a pas rapport à un ex-joueur. Non. Alors, il va falloir être soit présent, un très beau moment. J'ai assisté à la répétition aujourd'hui, vers midi. Et puis, c'était vraiment très bien. Évidemment, j'espère que je ne suis pas trop biaisée quand je dis ça, mais j'ai trouvé que c'était un super beau moment. J'ai hâte de vous présenter ça. Notre équipe a hâte de vous présenter ça. Super.
On vous fait confiance. Karen Hart à Philadelphie, René Rancourt à Boston pendant des années et des années, à Chicago, la légende Jim Cornelison, en tout cas, il est là depuis tout le temps. Nous autres, on avait Ginette à l'occasion, tout ça en série, mais durant la saison régulière, j'en nomme trois, là. Ils sont là à tous les matchs. Même à Chicago, là, c'est une légende, là.
Tout à fait.
Jim, là, on attend ça. Il y avait même des réseaux qui ne transmettaient pas les hymnes nationaux, mais le font à cause que c'était à Chicago. Puis lui, en fait, il a remplacé l'orgue petit peu, là, du temps où moi j'arbitrais. Bon, comment ça... C'est quoi, nous autres, stars? C'est quoi la patente? On en passe un, puis un autre, puis tout ça. Êtes-vous je sais pas, là, c'est-tu des screen tests, ça, là? Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Moi, je me suis fait que c'est genre...
C'est pas Star Academy, je pense que je vous ai entendu dire ça. Non, non. Alors, c'est vrai que pendant des années, on avait, nous aussi, une personne qui faisait...
Roger Doucet, du temps, oui, vous en bien souvenez, c'était toute petite.
Oui, oui, on voyait ça au travers de notre écran de télé. Bon. On a eu M. Prevolinton, on a eu des gens qui ont fait de longs moments avec nous au niveau de l'hymne national.
Oui.
Et par la suite, on a décidé de prendre une autre direction, puis de faire quelque chose de nouveau. Okay. On a même tenu des auditions au Centre Bell. À mon avis, ça doit faire 4 ans de cela, pour voir si on pouvait pas trouver la nouvelle personne qui allait faire notre hymne national anglais-français. On a choisi quelques personnes de ce lot-là. Et puis, dans le moment, on y va un peu en alternance. On a Mme Sarah Diamond qui vient à l'occasion. On a d'autres personnes. Ouais. On a vu d'autres personnes aussi en pré-saison. On a essayé des nouvelles personnes en pré-saison. On est allé avec peut-être des gens un petit peu plus jeunes, un petit peu dynamiques. On a essayé d'offrir autre chose.
Vous essayez de rejoindre des groupes cibles différents,
ben,
un peu plus rocker, à un moment donné, un peu plus... On n'est pas à Vegas, là, mais
on
quand même.
On n'est pas à Vegas. Ouais. Bien entendu qu'on n'est pas à Las Vegas. Il y a des blocs dans un match de hockey qui peuvent se changer. Celui-là, c'est sûr que c'est quand même un moment très important de l'hymne. On a essayé d'autres choses. À chaque samedi aussi, on a notre concept de samedi fanatique. On essaie d'amener des nouvelles personnes pour chanter l'hymne national. On a eu Grégory Charles dans le passé. Ouais. On a eu l'an dernier Kim Richardson. On a eu des gens comme ça qui sont connus au Québec, qui sont des chanteurs avec des voix exceptionnelles, qui sont venus divertir nos partisans au Centre Bell lors de nos samedis fanatiques parce qu'on essaie d'offrir un petit peu des choses différentes.
France-Margaret Bélanger est notre invitée. Serge Savard est déçu de ne pas être plus près de l'équipe. C'est ce que je conçois en l'écoutant aujourd'hui dans son lancement de sa biographie. C'était au Marriott. C'est vraiment ce que j'ai compris. Il a dit à un moment donné, écoutez, c'est comme ça, mais, nous autres, dans le temps, on était une grande famille. Mm-hmm. Est-ce qu'on n'est pas une grande famille toujours à Montréal?
Ben moi, je crois qu'on est une grande famille à Montréal. C'est ce que je vois. Je vois nos anciens. Je vois le travail exceptionnel que Régent Houle fait comme président de l'Association des anciens. Je vois tous les anciens qui tournent autour de nous. Malheureusement, notre ami Guy, qui a subi une intervention chirurgicale, qui est à la maison.
Il va mieux, il est sorti de l'hôpital.
Oui, mais Guy, il est super près de nous. Il est souvent en Centre Bell. Même chose pour Yvan Cournoyer. Il y a un tas de monde comme ça, des anciens et des gens qui ont fait en sorte que le Canadien a la réputation qu'il a aujourd'hui, les gens qui ont marqué l'histoire de cette équipe-là, qui sont près de nous. Alors moi, je pense qu'on a une très grande famille, le Canadien. On a un énorme respect pour tous ces anciens-là. On essaie de faire un tas de choses avec eux, puis on a un immense respect. Puis moi, j'ai un grand respect pour M. Savard aussi, bien sûr. Mais on, pour ce qui est de la question de la famille, ça fait aucun doute à mon esprit qu'on forme cette famille-là.
Vous savez, Bill Torrey, qui est décédé aujourd'hui, est avec les Islanders, que j'ai connu beaucoup du temps qu'il était DG, puis il est resté collé à l'organisation pendant longtemps. Bobby Clark, toujours avec les Flyers. Glenn Sater avec les Rangers, même si c'était plus directeur général. Gretz, qui est à Edmonton, dans l'entourage, en tout cas, et tout ça. C'est pas toujours évident, des grandes personnes comme ça, qui ont joué un rôle spécifique, tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, l'organisation se dit... Serge Savard, là, c'est pas n'importe qui. C'est le sénateur, il a remporté les dernières deux Coupes Stanley et tout ça. Là. On veut bien l'inviter un soir donné dans une loge et tout ça, mais de l'avoir à côté, il peut pas, dans le hockey d'aujourd'hui, il peut pas nécessairement être le conseiller, il peut pas être nécessairement... Mais comment vous faites pour que lui se sente encore de la famille, parce que je reviens là-dessus. Y a-tu quelque chose à faire de plus ou juste dire à Serge, t'es le bienvenu tout le temps. On souhaite que tu sois là au plus grand nombre de matchs que possible. Mais en fait, ce que vous devriez dire, vous pouvez dire, tu peux plus gérer l'équipe. Tu as fait ça dans les années mi-95, là. Tu as commencé en 84. Tu peux plus gérer l'équipe. C'est-tu un peu ça que je dis, puis que vous pourrez vous corroborer avec moi un petit peu, tu ne peux plus gérer l'équipe, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. On veut que tu sois là.
Ben moi, je pense que...
Moi,
je pense qu'il a fait un travail exceptionnel. Évidemment, c'est vrai qu'il était là lors de nos deux dernières Coupes Stanley. C'est quelqu'un qui, lui aussi, à sa façon, a marqué l'histoire du Canadien comme joueur. C'est un joueur exceptionnel. Et puis, par la suite, dans son rôle de directeur gérant pour le Canadien. Mais moi, ce que je dirais à ça, c'est bien sûr que les portes du Centre Bell sont toujours ouvertes, M. Savard. Maintenant, au-delà de ça, quel serait son rôle, etc.
C'est sûr que c'est ça qui est difficile.
Mais moi, c'est des choses, je ne peux pas me mêler de ça.
Lorsque Guy Lafleur a pris sa retraite, on l'a placé au Saint-Sébastien, on lui a donné un bureau. Ronald Collier, il a donné un bureau, puis il a dit tiens, vas-y, amuse-toi avec ça. Ça a pris quelques mois, puis il a dit voyons donc. C'est très difficile la transition pour un joueur, surtout une légende, une super vedette.
Tout à fait.
Jouer à Montréal, là, pour un Québécois, ça représente tout, la France. Jouer à Montréal pour n'importe lequel joueur de la Ligue nationale de hockey qui est adulé, qui est acclamé, qui est applaudi, ça devrait être très spécial. Puis Radulov, lui, pour la différence des taxes, décide de choisir Dallas. Ça doit être frustrant. C'est frustrant pour le public, c'est frustrant pour moi. J'ai changé ma toune, j'avais une toune sur lui, puis je l'ai changée, puis c'est le méchant, c'est le cow-boy au chapeau noir, là. Comment on fait pour gérer ça? Comment on fait pour gérer ça? Et comment on fait pour expliquer aux gens que, écoutez, lorsqu'on dit qu'on veut avoir des Québécois et tout ça, c'est important tout ça, mais on veut d'autres joueurs, des bons joueurs aussi, mais on s'aperçoit que la plupart des ceux qui ne sont pas nécessairement Québécois ne comprennent pas la réalité québécoise, puis qui s'en foutent royalement, puis veulent jouer ailleurs pour l'argent, d'abord et avant tout. On est rendu là, c'est ça. C'est très difficile. C'est très difficile de créer ces affinités-là puis de dire, on va tomber en amour avec un numéro, on achète le chandail, on paye 300$, puis deux ans plus tard, Galchenyuk est parti, puis Pacioretty, Colin, c'était notre capitaine, est parti. C'est presque plus pensable.
Oui. Mais je pense que lorsqu'on parle à les joueurs, on peut juste entendre Max Domi qui est avec nous maintenant, qui dit comment c'est spécial pour lui de jouer à Montréal. T'sais, il en parle, c'est un ambassadeur exceptionnel pour notre équipe. Il dit comment lui joue à Montréal. C'est quelque chose qui est vraiment unique à cause des partisans, à cause de ce qui se passe dans la ville, à cause du Centre Bell, à cause de l'atmosphère qu'on amène ici. Maintenant, pour ce qui est des décisions de Radulov ou autre, moi, je ne peux pas vraiment commenter là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'est la motivation de ces joueurs-là, là, au-delà du financier. Je ne peux vraiment pas me prononcer là-dessus. Et d'ailleurs, ces questions-là, je ne traite absolument pas de ça. On a quelqu'un de très compétent chez nous qui traite de tout ça, avec notre directeur général, Marc Bergevin. Peut-être que lui est mieux en mesure que moi d'expliquer cette tendance-là, mais est-ce que c'est différent ailleurs, de toute façon? Je pose la question. Est-ce que c'est différent dans d'autres marchés? Est-ce que c'est unique à Montréal, ce phénomène-là, que les gens vont peut-être aller plus du côté du financier ou aller plus pour des marchés plus tranquilles? Je ne sais pas. Je suis pas prête à dire.
Qu'est-ce qui est unique, France, à Montréal, toutefois, c'est la langue.
Oui.
Comment est-ce important pour l'organisation du Canadien d'avoir des petits gars de chez nous, même si la réalité, la nouvelle réalité de la Ligue nationale, 31 équipes, on ne repêche pas toujours les Québécois, ils ne sont pas toujours accessibles. Mais vous autres, est-ce que ça vous importe beaucoup, moyennement? Comment vous réagissez? C'est-tu important, selon vous, d'avoir le tiers des joueurs ou le quart des joueurs qui parlent le français? Est-ce que c'est important?
Bien, je pense que le français est important. On sait notre organisation. D'ailleurs, notre directeur général est un francophone. Notre coach est un francophone, bien sûr, Claude Julien. C'est super important. C'est des gens qui communiquent à chaque jour avec les médias ou presque. Alors, c'est super important pour nous d'avoir ces gens-là dans cette position-là. Au-delà de ça, je pense pas qu'on est avec des ratios de joueurs francophones, puis ça devrait être... Je suis pas sûre que ça serait de toute façon réaliste d'y aller avec un chiffre Ça me fait penser aux questions des conseils d'administration. Est-ce qu'on devrait y aller avec des ratios de femmes sur des conseils plutôt que... Tu sais, c'est un peu la même affaire. Je pense qu'on y va avec les gens qui sont disponibles, puis avec les restrictions du plafond salarial qu'on connaît, puis aussi les règles du repêchage maintenant.
Et aussi leur performance, leur qualité de joueur, leur potentiel de joueur.
Oui, on aimerait avoir... c'est Alexis Lafrenière qui s'en vient au prochain repêchage qui aura lieu à Montréal, d'ailleurs.
Mais on ne vous le souhaite pas.
Mais c'est ça.
Est-ce qu'on le souhaite pas, ça vous voulait dire que vous allez faire une
année. Mais est-ce qu'on se le souhaite? C'est un talent exceptionnel. Ah ouais. Je crois qu'il est à Rimouski, il joue pour l'Océanique, c'est un talent exceptionnel. Ouais. Tout le monde croit que dans le moment, c'est ce gars-là qui sortira en premier. Mais en même temps, c'est ça. Alors, à quel prix? Puis voilà.
D'accord, France-Margaret Bélanger est avec nous. Bon, ben à ce moment-là, ceux qu'on a, unilingue anglophone, j'ai lu un récent article, Gallagher, qui disait, c'est un peu comme un parent qui dit, ma grande tristesse, on n'a jamais eu d'enfant, hein, chérie. Ouais, c'est vrai, t'as jamais eu d'enfant, pas chanceux, c'est dommage. Lui, moi, le grand malheur de ma vie, c'est que je parle pas le français. Apprends, Armand. Moi, j'essaie de comprendre. France, j'essaie de comprendre deux choses, là. Le gars est allé à l'école plus qu'une 9e année, hein? Je veux dire, il dit, j'ai essayé. T'as pas essayé assez fort. Je te regarde jouer au hockey, t'essayes à tous les soirs, t'es pas capable d'essayer de parler un petit peu français. Surtout, France. Il va jouer à Montréal pour 10 ans. Domi, il peut jouer pour 10 ans. Kotkaniemi, ils vont jouer pour 15 ans. Suzuki va jouer. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une classe? Comment ça se fait qu'il n'y a pas des lois non écrites? Dans l'autobus, on parle français. Dano, let's go, parle-leur en français. Comment ça se fait que Claude Julien ne dit pas « Aujourd'hui, on parle le français dans l'autobus. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire sur le power play pour aider notre power play. » Non, pourquoi qu'on fait pas, on s'efforce pas? Ça vous fait sourire. Sauf que des gens qui sont à l'écoute, qui disent... Vous savez qu'il y a des gens qui sont au Québec qui ne comprennent pas l'anglais?
Ben, Ron, je viens de m'attendre.
Ben voilà!
Bien, tout à fait. Je comprends ça tout à fait. Absolument.
Ben voilà!
Il y a eu plusieurs années de ma vie où je ne parlais pas un mot d'anglais. Là. Ben. Évidemment, je l'ai appris par la suite. Alors, c'est vrai que ça
s'apprend. Comment vous avez fait pour apprendre ça, vous?
Ben, moi, je suis allée à l'école. J'ai appris ça à l'école. Puis j'ai travaillé aussi en anglais.
Vous avez travaillé là-dessus aussi?
Ouais. Bien sûr. Bon. Mais ce que je dirais, cependant, nous, comme organisation, on offre à Brossard, on offre des cours de français. Il y a des joueurs qui en suivent. Je ne peux pas vous dire exactement qui, mais je sais qu'il y a des joueurs qui en suivent. Il y a des épouses de joueurs qui suivent aussi des cours de français.
Alors, ils vont avoir des enfants?
Ben c'est ça. Alors, petit train va loin, j'imagine. Ouais. Alors, on offre la possibilité aux joueurs d'apprendre le français. Puis je pense qu'il y a une belle ouverture à ce niveau-là. Maintenant, il faut être réaliste aussi avec la cédule que ces gens-là ont, les matchs, les voyages. Il y a un tas de choses qui se produisent, alors...
Mais il y a un effort, là. Hey, Bob Gainey, ouais. Ça a appris. Larry Robinson, ça a appris le français, tout ça, dans le temps. Il était aussi occupé que les autres, pratiquaient autant.
Oui, il faut être confiant que...
J'aimerais ça que... C'est vrai que c'est l'association, hein. On peut pas forcer, on peut pas...
Non, on peut absolument pas.
Mais en tout cas, on peut faire... L'ensemble de l'œuvre au Centre Bell, là, j'ai déjà hâte à jeudi, France. L'ensemble de l'œuvre, là, c'est je me fais dire souvent, habituellement, le gars a 60 ans, celui qui m'en parle, c'est bien fort, ça, ici. Ça, on ne peut plus m'entendre, on ne peut plus s'entendre. On n'entend même pas la rondelle frapper à bande, Ron. Bon, OK, parfait. Mais on y travaille... régulièrement, religieusement, on essaie de trouver c'est quoi le mix parfait, c'est-tu « yes, let's go » ou c'est la libation, à l'écran géant, à un moment donné, il y a tellement d'affaires dans l'écran géant, je sais que c'est payant, il y a tellement d'affaires qui se passent sur l'écran géant qu'à un moment donné, je manque des bouts. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous étudiez ce phénomène-là beaucoup? Vous y travaillez?
Bien sûr qu'on y travaille et on y porte attention. C'est important. On sait tous, Ron, que les gens qui viennent au Centre Bell viennent voir un match de hockey d'abord et avant tout. Puis c'est ça qu'on veut que les gens viennent voir. On veut mettre la meilleure équipe possible sur la glace. Puis on veut que ça soit d'énergie sur la glace, que les joueurs jouent avec effort puis qu'on gagne. L'idée, c'est de partir du Centre Bell avec une victoire. Tout le monde est de bonne humeur.
Exact.
Nous, en premier. Cependant, ça n'arrive pas toujours comme ça. Alors, on essaie aussi. Moi, mon objectif, là, c'est que les gens qui viennent au Centre Bell, qui ont payé un billet, on revient à cette histoire de billet-là, on veut que l'équipe gagne, je le répète, mais on ne gagne pas tous nos matchs, on le sait. Donc, même dans la défaite, on veut qu'on aime que l'équipe ait bien joué, puis on aime aussi, nous, comme organisation, avoir offert une meilleure, ce qu'on appelle la fameuse présentation de match qui commence avec l'hymne national, la musique qu'on choisit. C'est vrai que des fois, les gens nous disent que c'est fort, mais ils vont, par ailleurs, dans d'autres marchés, ils vont aller à Las Vegas, ils vont nous dire « Ah, Las Vegas, quelle expérience incroyable. C'est une discothèque. Je suis allée à quelques reprises. C'est le fun. C'est vrai, mais c'est vrai. La musique, le niveau de décibels est plus élevé de façon significative là-bas. Ouais. Puis on s'ajuste et on a plusieurs clientèles. On a des gens plus âgés, on a des gens plus jeunes. Et puis on essaie de faire un mix de tout ça. Puis on essaie surtout de faire en sorte que le partisan apprécie le match, mais aussi puisse se divertir avec ce qu'on offre.
France-Margaret Bélanger est avec nous. À quel point ça fera mal à l'organisation si le Canadien ratait les séries 3 années consécutives, 4 en 5, en fait? Comment ça affecte l'organisation, ça, vraiment, là? Financièrement et aussi moralement?
Ben, je dirais que, évidemment, notre objectif, on le dit toujours, hein, c'est de faire les séries, c'est sûr. C'est évident qu'on veut tous ça. On veut ça pour nos partisans, on veut ça pour nous autres. Puis, tu sais, j'ai l'occasion de côtoyer Jeff Monson à tous les jours. On voit souvent Marc Bergevin, Claude Julien, les joueurs. Ces gens-là veulent faire les séries. C'est eux qui veulent le plus, au fond. T'sais? Alors, on regarde qu'est-ce qui se passe sur la glace. On espère de continuer. C'est bien parti pour l'instant. On a juste 2 matchs de jouer. Ça va assez bien. On espère que ça va se continuer. C'est important pour nous. C'est important pour nos partisans. Puis c'est tellement, vous le savez, c'est la fébrilité qu'on sent à Montréal, dans le reste de la province, au Centre Bell, quand on est en série. C'est tellement exceptionnel. On espère reproduire ça.
Ouais. Allez-vous, j'en ai une vlimeuse pour vous, là.
OK.
S'il y avait un changement de DG un jour, puis ça va arriver, est-ce que vous seriez directement impliqué dans la décision?
J'ai pas eu à faire face à cette décision-là. Depuis 6 ans que je suis là, on a toujours eu le même DG, alors je peux pas répondre à cette question-là. C'est certain que cette décision-là revient avec Jeff Molson, et puis c'est lui qui va décider qui le conseille ou pas.
Ce ne sont pas des décisions faciles.
Ben non.
J'imagine que la première question que vous vous posez, si jamais vous vous questionnez à savoir si on a besoin d'un nouveau DG, un jour, qui peut le remplacer pour la mauvaise
Tout à fait, exactement.
La liste est courte.
Oui, puis il faudrait... Enfin, mais moi, je pense... Oui.
Vous voulez pas parler de ça, dis-moi?
Ben non, mais on peut en parler, bien sûr, mais je pense que dans le moment, on a un excellent DG en place. Ça, c'est mon avis. Chacun a son opinion, c'est mon avis. Et puis, moi, je suis pas en train de regarder la liste des prochains. Pas du tout.
France-Margaret Bélanger, écoutez, merci d'avoir pris la peine de venir en studio. Comme ça, c'est vraiment très apprécié.
Merci de m'avoir donné l'occasion de parler à nos partisans. Merci.
Je suis très certain apprécié. Que les gens l'apprécient parce que les gens ont appris à vous connaître. Puis on s'aperçoit que, en tout cas, vous répondez aux questions, vous dites les vraies choses, puis on apprécie.
Bien, ça me fait grand plaisir. Merci encore.
Salutations à la famille.
Oui, merci.
Au plaisir.
Merci bien.